de noche visitan entre ellos.
La nuit, les esprits circulent.
Si andamos de noche, se podemos.
Si on est dehors, on risque de les rencontrer. Et ils résonnent à nos oreilles.
Mais est-ce que j'étais prête à mourir pour un arbre? La réponse était non.
Épisode numéro 2. Les gardiens du monde naturel.
Ces arbres sont comme des membres de notre famille. Ils nous rendent service. Là, j'ai accroché une pancarte qui dit « Protéger la végétation pour une bonne réincarnation ».
Voyage en terre indigène. Une mémoire des hommes qui s'efface. Une série d'Anne Pastor.
Indiens, pygmées, aborigènes, inuits, ces peuples nous font rêver, mais ils sont souvent réduits à l'image de primitifs et d'objets de curiosité. Pourtant, ils sont près de 370 millions à vivre avec leur langue, leurs croyances et leur savoir. Ce sont des micronations rebelles à l'uniformisation du monde et leur manière de penser et d'agir nous interroge. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction le Rajasthan en Inde et l'Amazonie en Équateur. Ils se définissent comme les gardiens de la nature. Ils, ce sont les Indiens Sariaku d'Équateur qui viennent de déposer la déclaration de la forêt vivante à la COP21. Ils, ce sont aussi les Bishnoi du Rajasthan qui ont fait de la protection de la vie sauvage leur raison d'être depuis le 15e siècle. Deux peuples, deux continents et un seul combat, protéger leur monde qui est aussi le nôtre.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. Au Rajasthan, chez les Bishnoi.
Quand on voit la beauté de ces oiseaux, on se dit que si Dieu existe, c'est bien ici. C'est un don de la nature. Je considère que la nature est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. J'aimerais que le genre humain préserve ce cadeau.
Quand vous êtes arrivé, vous êtes agenouillé, installé en position de lotus et vous avez médité. Et puis, quand vous avez vu cet arbre, vous n'avez pas hésité à le saluer.
La terre est comme une mère, et cet arbre est comme son serviteur. Le plus humble et le plus noble de ses serviteurs. Il est de notre devoir de saluer la nature. C'est elle qui nous donne la vie. Nous avons beaucoup de chance. Elle nous aime comme une mère. Elle nous cajole. Elle nous protège. C'est donc un devoir suprême de lui rendre hommage. La nature nous comble de son amour.
Comme tous les matins au Rajasthan, un vent de sable s'est levé sur le désert du Thar, surnommé la Terre des Morts, l'un des déserts les plus secs de la planète où le thermomètre flirte l'été avec les 65 degrés. Un environnement pour le moins hostile auquel la communauté Bishnoi a répondu à sa manière en se vouant corps et âme à la sauvegarde de la nature. Et c'est le visage enfoui dans les plis de son foulard que Kamuram, vêtu d'une tunique blanche, se dirige vers Kedjarli, un des lieux saints des Bishnoi.
C'est un panneau que j'ai laissé dans la précipitation à la foire de Kedjarli. Protéger la végétation pour une bonne réincarnation. Partout où je vais, je laisse ma trace. Là, j'ai accroché une pancarte qui dit « Réveillez-vous, dites non au plastique ». Je me suis fixé un but dans la vie, préserver un environnement sain et propre. Quand j'aurai gagné la guerre contre le plastique, je lancerai une nouvelle campagne pour replanter des arbres et reverdir la nature. Je ferai cela jusqu'à mon dernier souffle. Car je sais que ma vie n'aura de sens que si elle profite aux autres, si elle profite à la nature. Sinon, il y a des milliers d'êtres vivants qui naissent et disparaissent, des milliers d'êtres humains qui mènent une vie absolument insignifiante. Je n'ai pas envie d'avoir la vie d'un ver de terre.
Franck Vogel, je suis photojournaliste et ambassadeur des Bishnoi. Alors, la première rencontre, c'était en 2007. J'avais fait un tour du monde en stop, en Afrique, en Asie, voilà. Et c'est une personne que j'avais rencontrée en Afrique, Internet et il m'avait parlé de ce peuple. Et c'est là que j'ai essayé de trouver sur Internet, il n'y avait rien, et, enfin, à part un nom, c'était Sunil Bishnoi. Et je me suis dit, bah, comme il s'appelle Bishnoi, peut-être il a un lien avec cette communauté. Et donc je lui envoie un message, il me répond, il me dit, oui, je fais bien partie de cette communauté. Il me dit, venez voir. Et donc j'y vais. Et ce qui était très rigolo, c'était qu'à un moment, il me demande, tu as quel âge, enfin tout ça. Et j'avais 29 ans. Et je savais pas du tout que Bishnoi, ça signifie 29. Et donc, en fait, c'était très marrant. Il me dit, ah bah, t'es un peu Bishnoi, alors c'est le bon moment. Enfin, voilà. Et il me donne l'amulette avec le prophète.
Ça a changé votre vie, Franck Fogel, cette rencontre?
Oui, je pense, ouais. Moi, j'étais déjà personnellement proche de la nature. Et donc, de voir ce peuple dans un désert qui a réussi à s'adapter complètement, déjà, ça m'a touché. Et je pense que je suis peut-être devenu un peu plus humble. Les Bishnoi, c'est les premiers à changer leur façon de vivre. Complètement, radicalement, parce qu'ils ont été obligés. S'ils ne changeaient pas, ils mouraient. Et ils ont dû s'adapter. Et ils sont devenus écologistes par besoin, pour survivre. Et c'est pour ça que je les appelle les premiers écologistes. Parce qu'ils ne sont pas nés écologistes. C'est pour ça que c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on peut changer.
Voilà, vous venez d'ouvrir la porte. Quand on rentre au temple, on va saluer la divinité. Et puis ici, il y a les 29 règles des Bishnoi.
On se sent motivé par la vie de notre gourou. On a l'impression de marcher sur un chemin qui sort de cette grotte. Et de part et d'autre, on voit les 29 règles de notre gourou. Et en haut, il y a les versets sacrés qui résument toute sa vie. On a beaucoup à apprendre en les récitant tous.
Jiva upar jor karije antikal hoisi varu. Si tu exprimes ta force en molestant les animaux, la fin de ta vie sera douloureuse. Re binhi gune jive kyo mara. Pourquoi est-ce que tu tues les animaux qui sont innocents?
Les Bishnoi sont environ 700 000. Ils vivent principalement au Rajasthan. C'est une communauté religieuse à la base qui a été créée par un homme suite à un cataclysme. En fait, ils ont dû s'adapter. C'était pas des végétariens à l'époque. C'est plusieurs castes qui habitaient dans le désert qui ont décidé de suivre les préceptes de ce prophète, de Jamboji, qui leur a dit à un moment, si vous changez pas votre façon de vivre, vous ne pourrez plus vivre ici. Parce que ça va être un désert complet. Il y aura plus d'animaux, il y aura plus d'arbres, ça va être le désert complet. Moi, je vous propose une alternative. On est en 1485. Et à cette époque-là, une grande sécheresse, les humains tuaient les animaux sauvages pour manger, coupaient les arbres pour revendre le bois, pour avoir un peu d'argent pour manger. Et en fait, la sécheresse, elle continuait. Enfin voilà, c'était vraiment dramatique à l'époque. Et il leur a dit, il faut changer complètement vos façons de vivre. Et je vous propose 29 règles. Et ces 29 règles, elles ont été intégrées comme une sous-religion de l'hindouisme. Ne pas manger de viande, ne pas couper d'arbres, ça reste une religion. S'ils ne font pas ça, leur prochaine vie ne sera pas belle. Ils vont peut-être se réincarner en fourmi ou je sais pas quoi.
Je m'appelle Partik Bishnoi, je suis du clan des Godara. Je suis originaire de Sirsa dans l'état d'Haryana. J'ai 21 ans, je suis né à Sirsa et j'y ai toujours vécu.
Vous êtes la nouvelle génération des Bishnoi et vous continuez à suivre ces 29 règles?
Tout à fait, je respecte toutes ces règles. Les plus strictes sont celles qui nous enjoignent de préserver les arbres et les êtres vivants. Nous, les Bishnoi, sommes prêts à mourir pour cela. Le matin, je me lève à l'aube, je fais mes ablutions, je fais mes prières, je récite les mantras. S'agissant de la protection de l'environnement, je plante des arbres et je n'utilise pas de sacs plastiques. Je dis aussi toujours la vérité, j'aide les autres, je fais attention à mes paroles et je n'élève jamais la voix.
Et dans quelques minutes, le prêtre va réciter les versets.
Le matin, il y a un rituel avec un sacrifice au feu. Les gens viennent très nombreux des villages aux alentours. Ils vont commencer à arriver, chacun avec son moyen de transport, vous allez voir.
Le prêtre vient de s'asseoir et alors là, il est en train de préparer les offrandes.
Comme vous le voyez, on a disposé des textes sacrés de façon à ce que les gens qui ne connaissent pas les versets par cœur puissent les lire pendant le sacrifice. Ici, on mettra une noix de coco et là, on est en train d'allumer le feu sacré pour le sacrifice.
Et puis voilà, une magnifique dame qui arrive en tenue Bishnoi, rouge, orange.
Voilà, vous pouvez voir, les habits sont différents que les autres femmes. Vous voyez, très colorées, elle est très très âgée, mais quand même, elle est très sérieuse avec son religion. Regardez, maintenant, elle va s'asseoir là-bas.
Merci de nous avoir invités à assister aux prières du matin.
Merci à vous et merci à Dieu qui vous a mis sur mon chemin.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. Au Rajasthan, chez les Bishnoi.
Nous sommes à Kejarli. Un mémorial a été construit ici, à l'endroit où 363 des nôtres sont tombés en martyrs.
Aujourd'hui, Kejarli est devenu un îlot verdoyant au milieu des dunes et des steppes. 363 arbres ont été plantés en souvenir du massacre de 1730.
C'est une histoire qui coule dans nos veines. Dès qu'on parle du service à rendre à la nature, c'est l'histoire du sacrifice de Kejarli qui revient. Que l'on s'adresse à un tout petit enfant, à peine en âge de comprendre, ou à un vieillard sur le point de rendre l'âme. On n'arrête jamais de commémorer ce sacrifice.
Om Guru ke Sabad Asankhya Parvodi Khar Samand Parilo Khar Samand Pare Pare Re Chokhand Kharun Paila Antan Parun Anat Krod Guru ki Daan Vilambi Karne Sanskari.
Les Bishnoi, ils ne coupent pas d'arbres verts, mais ils en plantent. Ils plantent au moins un arbre par an par Bishnoi. Donc forcément, il y a des arbres qui sont autour des villages. Et à l'époque, le Maharaja de Jodhpur voulait repeindre son palais. Et donc, pour repeindre, il faut de la chaux. Pour faire de la chaux, il faut du bois. Donc, il a ordonné à ses soldats d'aller chercher du bois. Donc, ils sont allés à Kejarli. Ils ont commencé à couper les arbres. Et c'est là qu'une femme s'est interposée et dit « Mais vous ne pouvez pas couper ces arbres. C'est des arbres sacrés, vous ne pouvez pas y toucher. » Et là, elle décide d'enlacer un arbre. Et de dire « Je préfère que vous coupiez ma tête que de couper cet arbre. » Au début, ils l'ont pris pour une folle, et finalement, il la décapite. Ces trois filles étaient là. Elles voient la scène, et elles font la même chose. Et en l'espace de 15 jours, des gens sont venus d'un peu partout. Et on a la liste des 363 Bishnoi, avec le nom du père, de la mère, du village, et l'âge auquel ils sont décédés. Finalement, le Maharaja entend parler de cette histoire, il décide de venir sur place, s'excuser. Et il y a un décret royal qu'il a édicté à l'époque qui stipule qu'il est interdit, même pour la famille royale, de couper les arbres et de tuer des animaux sauvages.
C'est l'entrée du temple de Guru Jombeshwar Maharaj à Kejarli. On est juste devant le sanctuaire.
C'est extrêmement parlant parce que devant nous, on a donc ces peintures qui représentent le sacrifice des 363 Bishnoi avec l'armée qui arrive, les femmes qui s'enlacent autour des arbres et les soldats qui coupent la tête de toutes ces femmes.
Quand j'arrive ici, la première chose que je fais, c'est saluer la terre en me prosternant. Comme ceci. Et si je ne le fais pas physiquement, je me prosterne par l'esprit et par le cœur. J'ai l'impression ainsi de rendre hommage à ma propre mère.
Kamuran tourne autour du temple pour prendre l'énergie du père fondateur Jamboji.
Pour les Bishnoi, c'est une question de respect et d'honneur. C'est une règle. Il faut sauver les arbres. La nature ne peut pas nous protéger si nous ne la protégeons pas nous-mêmes. C'est pour transmettre cet enseignement aux générations futures et aux autres communautés que nous venons ici chaque année, le 10e jour du mois de Bhadra, le 6e jour du calendrier hindou. Les Bishnoi viennent de toute l'Inde par centaines de milliers. Nous rendons un culte au feu sacré et repartons avec l'espoir que ce type de tragédie ne se reproduise jamais et que nous continuons à protéger
chaque arbre.
Et quand vous nous avez raconté cette histoire, vous enlaciez l'arbre, vous touchiez l'arbre. Il y avait un rapport très physique avec l'arbre.
Vous avez tout à fait raison. La nature est notre mère. Les êtres vivants sont nos frères et sœurs. Ils sont tout aussi importants pour nous que nos bras, nos jambes, notre nez, nos oreilles ou nos yeux. Ils sont aussi importants que notre souffle vital. C'est pourquoi nous sommes prêts à donner notre vie pour les sauver. Si on ne protège pas son propre souffle, comment rester en vie?
Depuis qu'on est arrivé, Kamouran, vous rayonnez.
Mon secret, c'est que tout à l'heure, j'étais fatigué. Mais maintenant, c'est comme si j'avais retrouvé ma mère, comme si elle me prenait sur ses genoux et me cajolait. Quand un enfant se fait cajoler par sa mère, sa fatigue s'envole aussitôt.
Comment peut-on mourir pour des arbres? Parce que j'ai une conscience éco-citoyenne ancienne, je l'ai acquise de mon père qui était un éco-citoyen avant la lettre, mais est-ce que j'étais prête à mourir pour un arbre? La réponse était non. Donc je me suis ruée à ce moment-là sur Internet, j'ai trouvé des sources sûres qui relataient l'histoire de Jumboji, et ensuite ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait un site qui donnait toute la liste des victimes. Donc je me suis dit qu'il y avait une conscience très forte pour garder la liste des victimes d'un massacre qui remontait à 1730 au point de mettre sur Internet. Alors là, ça a été un véritable coup de foudre et je me suis dit, je vais faire littérature de cette histoire.
Irène Frein a publié « La forêt des 29 » où, sur fond de steppes arides et de palais princiers, elle raconte l'histoire de ce paysan visionnaire, Jumboji.
Je me souviens très bien de ma première rencontre avec les Bishnoi. C'était au village natal de Jumboji, à Pipassar. Et je suis arrivée à un moment, il faisait extrêmement sec au Rajasthan, c'était en juillet, et vraiment, il n'avait pas plu depuis des semaines. Et quand nous sommes arrivés, il y a eu des trombes d'eau, un orage subit. Et ensuite, quand je suis arrivée également sur le lieu du massacre à Kejarli, chaque fois, il y a eu une grosse averse. Je ne sais pas ce qu'il faut y voir, mais en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie pour écrire.
Est-ce que leurs propos ont résonné chez vous, justement, parce que vous aviez, depuis votre enfance, une conscience éco-citoyenne?
Vous avez employé le mot très juste en employant le mot résonance, parce que la traduction exacte des enseignements de Jumbo, c'est résonance, au pluriel. Jumbo ne cherchait pas à convertir, c'est tout sauf un prosélyte. Il cherchait à éveiller des chambres d'écho. Ils m'ont fait réfléchir sur mes pratiques. Donc, j'ai fait un inventaire de mes pratiques, mais j'ai aussi compris ce que m'avait dit Jetsun Pema, la sœur du Dalai Lama, que dans la planète, tout était interconnecté. J'ai vu ça mis en pratique avec les Bishnoi. Par exemple, il y a beaucoup de cobras au Rajasthan. Ils pullulent. Eux ne les tuent pas, mais ils ne prolifèrent pas parce que les Bishnoi élèvent des paons. Donc, les paons font le ménage. Ils tuent les cobras. Il n'en reste que la petite quantité qui permet le juste équilibre avec les autres espèces. En fait, ils s'arrangent pour qu'en tout, la nature fasse son boulot. De même les gazelles. Les gazelles sont essentielles dans l'équilibre de l'écosystème. Et ils ont interdit la chasse. Ça a été la première chose. On ne s'attaque pas aux gazelles. Et c'est très simple. Il y a un équilibre à trouver. Et dans le fond, toutes nos sociétés actuelles cherchent la notion d'équilibre. Et ce qui est intéressant dans la communauté Bishnoi, c'est ce message. Tout acte a une conséquence. J'ai vu des gens qui, dans tous leurs actes de leur vie, pratiquait ce respect du vivant, du non-vivant et de la chaîne qui fait que la nature peut se perpétuer.
Je m'appelle Puna Bishnoi. C'était un samedi vers 17h. Mon père était au champ en train de biner avec mon oncle et le reste de ma famille. J'étais très jeune à l'époque, je venais tout juste d'entrer à l'école. Mon père a entendu des coups de feu, il s'est précipité dans leur direction. Il a couru sur environ 3 km, il était tout devant. Il y avait d'autres membres de la famille et moi, qui étais tout petit, je courais derrière. Au bout de 3 km, il est tombé sur le braconnier qui lui a dit « N'approche pas ou je tire ». Mon père a répondu « Tire si tu veux, mais je ne lâcherai pas cette gazelle ». Alors il a tiré et mon père est tombé en martyr. Tout le monde doit mourir, tôt ou tard. Mais ceux qui meurent en ayant fait le bien, eux entrent dans la légende. Notre communauté est minuscule par rapport à la population de l'Inde, mais ce sont des gens comme mon père qui ont fait notre réputation dans le monde entier en protégeant les arbres et la faune sauvage. Mon père a suivi les préceptes de notre gourou Jambeshwar et accompli de nobles actions. Le discours actuel des scientifiques sur la protection de l'environnement, notre gourou Jambeshwar le tenait déjà il y a 5 siècles. Mon père a suivi ses règles, protégé la faune sauvage et fait le sacrifice de sa vie. C'est quelque chose dont je suis très fier.
Est-ce que vous lui avez pardonné au chasseur ?
Non, je ne lui ai pas pardonné. En fait, je ne l'ai jamais vu. Il habite dans un hameau à 5 ou 6 kilomètres d'ici.
Et si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire ?
Ça, l'histoire le dira.
Depuis la mort de Gangaram le 12 août 2000, un hommage lui est rendu chaque année dans son village natal de Cherai. Il a même reçu la plus haute distinction du pays pour la défense de la vie sauvage. Et comme lui, ils sont plusieurs chaque année à sacrifier leur vie, notamment pour sauver l'antilope noire qui pourrait être la réincarnation de leur prophète. Les temples aussi sont devenus des sanctuaires pour les animaux sauvages.
Elle a perdu sa mère quand elle était toute petite. Sa mère s'est fait tuer par des chiens. Elle nous a été amenée par des paysans des environs, des Bichnois, et depuis, elle vit ici. Quand les gens ont vu que sa mère était morte, ils se sont dit qu'elle ne survivrait pas, la pauvre. Alors ils nous l'ont amenée. Elle comprend le langage du cœur, et c'est pourquoi elle est restée avec nous.
Alors là, elle est en train de prendre son petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle mange ?
Des pois chiches.
Pendant les prières, la gazelle, elle vous écoutait.
Bien sûr. Elle approche quand c'est l'heure du rituel.
Alors que vient d'arriver la femme qui a allaité cette petite gazelle.
Elle s'appelle Shamsundar Bishnoi. C'est la femme qui a allaité la gazelle que vous voyez.
Vous portez la tenue traditionnelle et vous êtes voilée avec de magnifiques bijoux. C'était la première fois que vous allaitiez un petit bébé gazelle.
Oui, c'était important de sauver sa vie parce que Guruji qui a dit qu'il n'arrive pas de sauver sa vie. Donc il a besoin de quelqu'un qui va la nourrir.
Et pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Arti?
Mon cœur qui m'a dit Arti, c'est-à-dire la prière.
En allaitant ce petit bébé, gazelle, vous avez eu l'impression d'accomplir une des règles importantes de la religion Bishnoi.
Dans notre religion, c'est notre travail, on doit faire ça. J'ai sauvé la vie de petit gazelle, je suis très content. Il est comme le membre de la famille.
Vous lui apportez des petites graines. Est-ce que vous croyez qu'elle vous reconnaît ?
Oui, elle me reconnaît. Elle était avec moi pendant des mois.
Alors vous, vous êtes le mari quand Guruji vous a appelé pour vous demander si votre femme, qui venait d'avoir aussi un petit bébé, pouvait aussi allaiter la gazelle. Qu'est-ce que vous êtes dit ?
Il était sûr qu'elle va donner son lait. Parce que je connaissais bien, elle était très gentille avec les oiseaux, avec les animaux, avec les natures. Je connais bien le cœur d'elle. Je suis amoureux avec elle.
Alors, vous l'avez pris en photo ? Ah voilà, alors là, on voit votre femme qui attrape ce petit bébé gazelle dans ses bras. Et là, elle a d'un côté le bébé et de l'autre côté la gazelle qui tête goulûment. C'est une belle image.
Hein. On est très content qu'on a protégé la vie d'un petit gazelle. Ça nous donne la puissance, ça nous donne la force. J'arrive pas à expliquer comment je suis très content. C'est vraiment le Dieu aussi qui nous a aidés, en même temps que ma femme qui a donné la naissance de petit bébé.
Le bébé, comment est-ce qu'il réagissait ?
Il était aussi comme mon petit bébé. Donc, on partageait moitié-moitié pour tous les deux.
Et demain, si c'était à refaire ?
Je suis prête pour sur 24-24.
C'est dire que les animaux, la nature, la faune sont presque plus importants que les hommes.
Tout le monde est important pour nous, que ce soit cette gazelle ou un être humain. Tous les êtres vivants sont des créatures de Dieu. Nous les considérons tous comme des membres de notre propre famille.
Voyage en terre indigène avec Anne Pastor sur France Inter.
Aujourd'hui, le territoire des Bishnoï est protégé. C'est ce qu'a appris à ses dépens l'une des stars de Bollywood qui s'est vue infliger une peine de 5 ans de prison après avoir tué une antilope noire. Au fil des siècles, les Bishnoï ont créé des centaines de villages éco-responsables et chaque famille doit planter des arbres et consacrer le dixième de sa récolte à l'alimentation des animaux sauvages. Ce culte de la nature place les Bishnoï en lisière de l'animisme. Une croyance que l'on retrouve aussi à 10 000 km en Amazonie, où les Indiens d'Équateur vivent en harmonie avec la nature et sont à l'origine de la déclaration de la forêt vivante qu'ils ont présentée lors de la COP21.
Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor, que el amor sea ahí. Después 7 años de exilio por haberte tanto. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado. salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. El puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de cenizas cae. Salgo a encontrarte en mi traje de ti. Después 7 años de exilio por haberte tanto
está viendo, mira, sí, supongo que estás en una rama.
Les Occidentaux aussi, au début de leur histoire, avaient le même lien avec la nature. Le rôle des peuples indigènes est de les aider à se souvenir, et il faut que l'Occident l'entende, il faut qu'il en prenne conscience.
Vous êtes inter-indigène sur France Inter.
Je m'appelle Antonio Ran, j'ai 24 ans.
En Équateur, chez les Sariaku.
Nous sommes sur le chemin des fleurs. C'est un espace de sauvegarde des plantes comestibles avec des fleurs très vives que nous sommes en train de planter autour de nos terres pour qu'il y ait une frontière visible d'avion. C'est un chemin de 300 km qui délimite et protège notre territoire
Sariaku.
Vue du ciel, cette forêt amazonienne est un océan vert opaque, si dense qu'aucune route ne mène à Sariaku. C'est donc en pirogue que l'on atteint ce territoire colonisé au XVe siècle par les descendants des Incas. Aujourd'hui, ils sont 1200 sur les rives du Bobonasa à vivre encore de pêche, de chasse et d'agriculture dans cette forêt primaire où des milliers d'animaux, d'insectes, de plantes et d'arbres sont considérés comme des êtres vivants et portent même des noms sacrés.
Sirve para las postes de la casa, también para crecer demora más de unos 50 años.
C'est l'arbre qui est très très fort et on l'utilise pour la construction, pour les maisons. Il fleurit chaque 50 ans et aussi il y a l'esprit parce qu'il est très fort, il ne tombe pas facilement.
C'est un arbre qui se llama Chacaspi. También tiene espíritu.
C'est aussi un esprit.
Es como alimento para los pájaros.
Et cet arbre est un aliment pour les oiseaux.
Este árbol se llama en quichua chuputo, en castellano ceibo, para mala suerte. Bueno, dice.
C'est un arbre très important aussi parce que les Corses, on l'utilise pour faire des mains pour les mauvais oeil.
Quand une personne tiene mala suerte.
Pour l'esprit.
Vous qui êtes l'un des responsables de la forêt, des plantes médicinales, qui êtes donc très très souvent dans cette forêt, est-ce que vous avez déjà ressenti l'esprit de la nature, l'esprit des animaux?
Si andamos así solo, conociendo la selva, entonces, que grita, así.
Oui, quand on marche tout seul, des fois on écoute des cris, et nous on sait que ce sont les esprits qui nous sont en train de protéger de nous, de nous communiquer. Et c'est pour ça qu'on doit le respect, on ne doit pas couper beaucoup de arbres. On est sûr qu'il y a des esprits dans cette forêt.
Ah oui, je suis Philippe Descola, je suis un badaud professionnel qui enseigne au Collège de France. La nature, au fond, c'est une invention que nous avons faite, nous, c'est-à-dire cette idée que l'ensemble des non-humains constitue un groupe, un bloc qui est complètement séparé de nous et avec lequel on se positionne comme un domaine de ressources extérieures à nous. Ça n'a pas d'importance, ce sont des ressources, hein, donc ça peut être des ressources fossiles, ça peut être aussi des plantes pour se nourrir, ça peut être des animaux pour les faire travailler, etc., etc. Donc cette extériorité de la nature est quelque chose qui est tout à fait caractéristique du monde moderne, qui est en général ignoré, inconnu dans beaucoup d'autres civilisations. Il n'y a pas de nature, tout simplement. Il y a une foule de non-humains avec lesquels les humains entretiennent des relations de diverses sortes au quotidien.
Ici, c'est la montagne du singe noir. Maintenant, il y a des gens qui habitent ici. Mais avant, il y avait surtout beaucoup d'animaux. La vie était différente. La montagne était différente. C'est pourquoi ils ont établi Sarayaku ici. Ici, on peut voir les cinq montagnes de Sarayaku. Ces montagnes étaient gardées par des chamans. Mais il ne faut pas s'aventurer seul à Rutino, où nous chassons, parce que l'on se perd. Et alors, les esprits qui sont à l'intérieur de la terre nous avalent, nous engloutissent.
Une fois vers minuit et demi, j'ai entendu comme des tambours. J'ai eu peur, mais ils n'étaient pas là. Pour nous, les esprits ont une énergie très puissante. Et ils peuvent te faire vomir, par exemple. Pour te nettoyer, tu dois mâcher une plante. Il y a beaucoup de plantes aussi que l'on prend pour parler avec les esprits.
Lorsque vous êtes en forêt, par exemple, et que vous marchez, il n'y a personne autour de vous, vous entendez tout d'un coup un craquement à quelques mètres et vous ne voyez rien, vous demandez ce que c'est. Eh bien, la possibilité d'inférer que ce craquement est l'effet d'une présence d'un esprit n'est pas complètement absurde si vous vivez dans un monde où les esprits sont des choses familières. Ça, c'est quelque chose qui est très commun au monde animiste, et pas simplement en Amazonie, on a aussi ça parmi les populations autochtones du nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie, donc c'est quelque chose de commun dans bien des régions du monde. C'est l'idée que dans tout objet, on peut déceler quelque chose comme une présence, une âme. On dit, les gens pensent que le manioc a une âme, que les singes les nus ont une âme, que les sarbacanes ont une âme, etc. Je pense qu'on peut peut-être définir ça plutôt comme une intériorité, une capacité intérieure à agir sur le monde. On peut appeler ça, si vous voulez, un système de croyance ou une vision du monde ou une cosmologie, etc. Mais au départ, je pense que c'est une aptitude, une universel.
José Gualenga est l'ancien président de Sarayaku.
Souvent, on nous voit, nous, les peuples indigènes, comme des peuples exotiques, sauvages, mais en tant que peuple originaire de la forêt tropicale, de la jungle et de l'Amazonie, notre rôle est fondamental dans leur préservation et leur protection, puisque nous y vivons. Du coup, nous sentons la forêt, la terre vivante, et nous sommes en communion avec le murmure de l'eau, des montagnes, des animaux et avec tout le mystère de la forêt qui vit. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas l'être le plus important. Il faut oublier cette idée. Le plus important, c'est la Pachamama, les êtres vivants de la forêt, toute la question sacrée et symbolique qui nourrit la terre n'a aucune valeur marchande.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter.
Cristina Walinga Kuhi. Et vous, les femmes qui êtes très très attachées à la mère nature, est-ce que vous appelez l'esprit de la nature?
Oui, mais nous ne pouvons pas le voir. Si un étranger vient ici, il pleut ou il y a du vent. On dit que la terre le reçoit. Nous croyons qu'elle réagit. Quand vous êtes arrivé, il y a eu du vent. Nous pensons aussi qu'elle nous regarde. Parce que ceux qui prennent le guanto ont vu des feuilles sourire, des arbres pleurer quand on va les couper, ou des femmes entraînées par des plantes. Elles vont dans des endroits où on ne devrait pas aller et on peut juste faire attention à elles. Ceux qui ne prennent rien les voient juste partir et ensuite elles reviennent et nous racontent ce qu'elles ont vu dans cette dimension. Leurs yeux se sont ouverts avec le guanto.
Dans le monde amazonien, les femmes, d'un côté, traitent les plantes cultivées comme des consanguins, généralement comme des enfants. Elles leur parlent comme on parle à des enfants. Ce n'est pas toujours d'ailleurs exempt de danger, puisque dans les groupes Jivaro, le manioc, qui est l'enfant par excellence, c'est la plante la plus omniprésente dans les jardins, est aussi vampire, c'est-à-dire qu'il suce le sang des enfants humains. Et en fait, les enfants humains et les enfants végétaux s'entre-dévorent, puisqu'on donne à manger aux enfants humains de la bouillie de manioc. En revanche, les hommes entretiennent avec les animaux qu'ils chassent un rapport entre beaux-frères, c'est-à-dire ils sont traités dans les incantations magiques comme des parents par alliance.
Est-ce que vous sentez que l'esprit de la nature est plus serein?
Oui, mais nous devons y faire attention pour qu'ils ne se fâchent pas ou ne disparaissent pas.
L'Équateur est le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature dans sa constitution. Mais les Sariaku veulent aller plus loin. Ils sont à l'origine de la déclaration de la forêt vivante présentée lors de la COP21. Ils souhaitent que les Nations Unies reconnaissent cette nouvelle catégorie dans son programme pour l'environnement.
Dans le texte qui est proposé par les Sariaku, c'est pas la nature qui a des droits. C'est un milieu de vie, c'est-à-dire c'est quelque chose de beaucoup moins abstrait. C'est un environnement d'un type particulier au sein desquels une société singulière, des humains avec des pratiques et des croyances et des manières de vivre particulières ont développé un certain type de rapport avec des plantes, des animaux, des esprits, des rivières, des lacs, etc. C'est ça que ce document demande de protéger. Ça, c'est une idée originale, au fond, parce qu'elle va à l'encontre, à la fois, bien évidemment, de la déprédation de l'environnement qui a été pendant longtemps la clé de voûte de la croissance en Occident, mais elle va aussi à l'encontre d'une vision un peu utilitariste, disons, qui dit « protégeons des milieux parce qu'il faut protéger la biodiversité. » Et puis, il y a peut-être des molécules qui, un jour, nous permettront de guérir telle ou telle maladie. Donc, une vision utilitariste qui, au fond, est celle propre à ce que j'ai appelé, moi, le naturalisme. À la différence de cette perspective, c'est l'idée que c'est tout un ensemble qu'il faut protéger. C'est-à-dire, c'est une forme de relation à autrui, hein, finalement. Et à un autrui qui est autant humain que non humain.
Mi padre contaba una vez, mi papá,
dijo el que estaba en una laguna. Había muchas pavas ahí.
Mon père racontait comment un jour, près de la lagune, il essayait d'attraper des dindons. Mais ceux-ci lui échappaient et il continuait à les poursuivre.
Por otro lado, ¿qué pasó? ¿Qué estoy? Estaba entretenido, pero sintió algo en su ser.
Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que la rivière était là, tout près de lui,
creciendo y queriendo,
et que les dindons l'avaient attiré jusque-là.
Esas pavas eran mujeres, unas mujeres lindas con pelos.
C'est parce qu'en fait, c'était des femmes très belles et avec de longs cheveux qu'il avait attiré et voulait l'emporter.
Immense. Lindissimo. Ahí hay muchos espíritus.
Il y a beaucoup d'esprits là-bas, mais il ne faut pas y aller.
La compañía ni siquiera nos llevan a eso. Porque dice que es muy resentido. Quieren estar ocultos.
Moi, j'y suis allée quand j'étais petite. Mais plus maintenant.
Y por allá. Es muy importante esa laguna. Muchas cosas están escondidas ahí.
Cette lagune est très importante.
Así es, pero hay que tener discipline. Uno hay que
Mais il faut être très discipliné.
Y llegar, respirar,
juste sentir et regarder cette belle nature.
Está la tierra. Sí.
Voyage en terre indigène. En Équateur, chez les Sariaku.
Lorsque l'humain entre dans une forêt fragile, dans une lagune, dans une montagne sacrée, il les détruit. Il doit comprendre la Pachamama, la mère nature, l'être que nos yeux ne peuvent pas voir mais que nous sentons. Et je ne parle pas de Dieu, mais d'autre chose. La Pachamama doit devenir une priorité. Et grâce à nos luttes, nous avons obtenu que les forêts soient protégées. Notre forêt vit. Elle n'est pas détruite. Vous devez assumer votre rôle et changer radicalement de politique économique grâce à un dialogue basé en priorité sur le respect et la communication avec la mère Terre. Et c'est ce que nous sommes venus dire à la COP21. Sarayaku veut essayer de construire une nouvelle forme d'administration, de gestion du territoire, et que ce soit une alternative et un exemple pour le reste du monde. C'est ça l'ambition de Sarayaku sur le long terme.
Marlon Senti, ancien président de la communauté.
Mes rêves
pour la communauté, c'est que Sarayaku reste comme il est
aujourd'hui.
Je ne veux pas que l'on privatise l'oxygène,
la lluvia,
l'eau,
el río,
la rivière, la pluie,
las montañas.
Les montagnes.
No quiero pensar que después de mi muerte,
je ne voudrais pas qu'après ma mort,
un mercado de carbono
on vende des morceaux de forêt sur un marché du carbone,
no tengan que conocer,
que nos enfants,
no lluvia ácida, sino
mais
la
surtout
lluvia
l'esprit de la pluie, connaissent les pluies acides,
que nuestros hijos no tengan que comprar
qu'ils un soient obligés
tierra,
d'acheter leur lopin de terre,
que nuestros hijos no tengan que estar arrodillados frente
de s'agenouiller devant les pouvoirs économiques ou de payer les grandes entreprises pour exister.
Que nuestros hijos tengan que estar pagando dinero a las empresas.
Or, l'avenir qui se dessine, c'est ça.
Si tú vieras en el mapa mundial,
si tu regardes sur une carte des populations mondiales, là où il y a des indigènes, il y a de l'eau et de la forêt. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde, mais notre savoir nous dit de vivre en harmonie, sinon nous, les humains, nous disparaîtrons.
Et c'est cet appel que ce petit peuple de 1200 personnes lance au monde entier, leur vie en dépend. En défendant la forêt vivante, il propose un nouveau projet de société, la Tierra Sin Mal, La terre sans mal, une utopie partagée par de nombreux indigènes, qu'ils soient d'Inde ou d'Amérique latine, ces peuples menacés par la déforestation, la disparition de la faune et de la flore, sont les premières victimes du changement climatique. C'est pourquoi ces gardiens du monde naturel nous invitent aujourd'hui à repenser et à construire ensemble un autre modèle de développement.
The time modern love so strange said you never know. While I try my best, hey, to cover our eyes, it's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say matters a little bit. But come on and mean it to me. I need it so bad. I need it to try. I need it in love. I'm finding a way. I need never get old. Just standing in the rain. Mean what you said. Oh, and mean it to me. All of these lies. Oh, and never again. Come on and say. And I'll say it again. I know that some will say it matters a little, babe. Oh, I'm a coming and mean it to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.
Merci à Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage avec Stéphane Barelli de la Fondation Barbier-Muller.
Ce peuple, on les appelle les Batis. Ils ont des pouvoirs surnaturels. C'est un peu comme des X-Men, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler, ils peuvent lire dans le cœur des gens, ils ont une capacité de se transporter où ils veulent, en un battement de cils. Et surtout, ils ont cette curieuse faculté, que j'ai jamais entendue nulle part, de pouvoir entendre quand on parle d'eux, si on a les pieds posés au sol. Alors eux, ils me disent qu'ils doivent être encore 60, mais de mes yeux, j'ai vu une quinzaine de personnes.
Voyage inter-indigène. Une série d'Anne Pastor.
Montage Thomas Loupias. Mixage Valentin Hazan. Un documentaire réalisé par David Rocher. Merci à Christine Digère et à l'émission Sur les Docs de France Culture, à la chanteuse Violetta Duarte pour les voix et à François-Xavier Durandy pour la traduction.
Ce programme a reçu le soutien de la compagnie Jet Airways et de l'agence Shanti Travel.
La semaine prochaine, des savoirs pour demain. Nous irons chez les Kalawaya en Bolivie et chez les Indiens Cris du Grand Nord québécois.
Le voyage continue sur franceinter.fr.